VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, pour vous présenter ce bulletin d'actualité de la soirée. Près de 300 migrants ont été secourus ce dimanche au large de la Libye alors qu'ils étaient à bord de deux embarcations en détresse, dans l'une desquelles deux femmes ont été retrouvées mortes. Les deux opérations de sauvetage ont eu lieu au large de Garabouli et ont permis de ramener 290 migrants à Tripoli, selon la marine libyenne. Le gouvernement sénégalais a promis de ne ménager aucun effort pour arrêter les responsables du massacre de 13 hommes en Casamance. Depuis samedi, une compagnie de parachutistes fouille la région. Une traque rude et sans répit sera menée pour retrouver les auteurs de cet acte ignoble, a déclaré Aziz Guinchor, le ministre de l'Intérieur, Ali Nguyen Diaye. À la tête d'une délégation de hauts responsables, il s'est rendu au chevet des blessés à l'hôpital de la ville, chef-lieu de cette province du sud du Sénégal. Au Mali, trois combattants d'un groupe armé pro-gouvernemental ont été tués samedi dans le nord du pays par des djihadistes présumés, selon des sources sécuritaires, indiquant par ailleurs qu'un militaire retraité et un civil malien, otages depuis juillet, ont été libérés vendredi. Le nouveau Premier ministre du Mali, Soumeilou Boubey Maïga, s'est dit prêt à prendre des mesures fortes pour renforcer la sécurité des Maliens, en particulier dans le centre du pays, confronté à une montée des attaques djihadistes. Le gouvernement dévoilera un programme dans les jours à venir, a dit à l'AFP cet ex-ministre de la Défense. Nous allons également voir comment, avec les forces religieuses saines, si nous pouvons organiser la riposte doctrinale, a expliqué le chef du gouvernement. L'ancien Premier ministre égyptien Ahmed Shafik a indiqué qu'il ne serait pas candidat à la prochaine élection présidentielle, contrairement à ce qu'il avait annoncé fin novembre, alors qu'il était en exil aux Émirats arabes unis. Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, M. Shafik a affirmé qu'après son retour au Caire, début décembre, il s'était rendu compte qu'il n'était pas la meilleure personne pour le poste. Malheureux candidat à la présidentielle de 2012 remportée par Mohamed Morsi, il avait ensuite fait face à la justice pour corruption. Acquitté, il s'était alors réfugié aux Émirats arabes unis. Au Soudan, les exemplaires de 6 quotidiens critiquant l'augmentation des prix du pain ont été saisis par les autorités ce dimanche. Une manifestation d'étudiants a été dispersée à l'aide de gaz lacrymogène samedi à Sennar et les partis d'opposition ont appelé à des rassemblements dimanche dans tout le pays.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
L'arrêt des essais nucléaires nord-coréens est la première condition avant que les États-Unis acceptent de discuter avec le régime de Pyongyang, a affirmé l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley. Lors d'une interview sur ABC News, elle a souligné que cet arrêt devrait durer une période suffisamment longue avant que les négociations puissent passer à la phase suivante. Le président Donald Trump avait indiqué la veille qu'il était prêt à s'entretenir avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, alors que l'espoir d'une détente entre les deux Corées est apparu. Israël va rétablir à partir de lundi ses livraisons d'électricité à la bande de Gaza après que l'autorité palestinienne ait accepté de payer à nouveau les factures de l'enclave, a indiqué le ministère de l'Énergie. Israël avait réduit en juin ses livraisons au territoire palestinien gouverné par le Hamas, affirmant que l'autorité palestinienne refusait de régler la facture. De nombreux habitants ne recevaient que 4 heures d'électricité par jour contre des cycles de 8 heures auparavant. Et Hollywood célèbre dimanche les 75e Golden Globes, où La Forme de l'eau et Pentagon Papers partent favoris. Aucune femme n'est sélectionnée dans la catégorie meilleur réalisateur, malgré des années de polémique sur le sexisme à Hollywood, alors que l'industrie du cinéma est encore sous le choc du scandale de l'affaire Weinstein.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à toutes et à tous, Anastasie Tudiech avec vous, ravie de vous retrouver pour Dialogue des religions, notre rendez-vous interactif autour des questions de foi. Le point de départ de notre thème ce soir est ce que vous allez entendre.
Ce n'est plus un secret pour personne que le climat du pays en général et de la capitale en particulier est caractérisé par un regain de peur et d'énervement, d'incertitude sinon de panique. Nous sommes témoins d'incidents malheureux survenus le dimanche 31 décembre 2017 lors de la marche pacifique et non violente organisé par le comité laïque de coordination dans le but de réclamer l'application réelle de l'accord.
Le débit lent est composé, signature de Monseigneur Mosengo, l'archevêque de Kinshasa. Le prélat réagissait à l'épilogue tragique du dimanche 31 décembre à Kinshasa, où des marches avaient été organisées par un collectif de laïcs catholiques contre le maintien du président Joseph Kabila au pouvoir. 12 morts selon les organisateurs, vous l'avez entendu dans le journal, 12 morts selon les organisateurs, 5 selon l'ONU et désormais le gouvernement qui semble donc reconnaître au moins 5 morts et des centaines d'arrestations. Les autorités de Kinshasa qui ont d'ailleurs félicité les forces de l'ordre et selon le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, les forces de sécurité pourchassaient ce dimanche-là des terroristes. L'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Laurent Mosengo, a qualifié quant à lui, vous pouvez retrouver d'ailleurs ce communiqué que vous avez entendu au départ sur le site de VOA Afrique, dans lequel il dit très clairement, il prononce très clairement le mot de barbarie et il ajoute « Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent et que règne la paix, la justice en République démocratique du Congo ». Nous aimerions donc ce soir revenir sur l'implication des responsables religieux dans les processus démocratiques, décidément, en Afrique, quelle que soit la religion. Qu'en pensez-vous ? Est-elle cette implication nécessaire ? Est-elle naturelle ? Est-elle efficace ? Ou au contraire, est-elle inefficace, inutile, voire partisane ? N'hésitez pas à appeler le standard de VOA Afrique pour témoigner de comment vous le vivez là où vous habitez. Votre témoignage fait le sel de cette émission 001 202 205 26 33. Je répète 001 202 205 26 33. Nous serons également avec Tal Alimassi qui est l'ancien président de l'Association des catholiques africains aux États-Unis et il vit ici à Washington et on me souffle dans l'oreillette qu'il est avec nous. Bonsoir, Monsieur Alimassi. Allô?
Allô, oui, bonsoir.
Ah, ça marche mieux quand on appuie sur le bon bouton. Bonsoir. Merci d'être avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
Qu'est-ce que vous savez des événements du 31 décembre dont nous parlons?
Ce que je sais, rapidement, tout d'abord, il faut dire que, ce que vous disiez avant, cet événement entre dans ce qu'on appelle couramment la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire la promotion de la justice sociale, la défense des droits civils et politiques des citoyens, ça c'est promu par la religion. L'Église catholique n'a pas de problème avec ça, donc ça entre là-dedans.
Donc vous répondez aussi à la question que je posais un peu à nos auditeurs, est-ce que ce mouvement est naturel ? Vous répondez oui, ça fait même partie des fondamentaux de l'Église catholique, c'est ce que vous nous dites.
Oui.
D'accord, je vous laisse continuer.
Bon, voilà. Maintenant, ce qui s'est passé le 31 décembre, c'était aussi ce qu'on peut appeler le droit de chaque diocèse, de chaque archevêque, de chaque évêque, de décider de ce qu'on peut faire dans son diocèse. C'est-à-dire à Kinshasa, ça s'est fait, à Kamina, dans le diocèse de Kamina, ça s'est fait, dans d'autres diocèses, comme le diocèse de Bukavu, l'archidiocèse de Bukavu, ou le diocèse de Beni Butembo, les évêques ont demandé soit aux fidèles, dans les cas de Bukavu, aux prêtres de ne pas participer, c'est de leur droit. Rome leur reconnaît cela et voilà, c'est ce que je peux vous dire sur la structure de l'Église catholique dans ce sens-là.
Très bien. Alors, ça c'est pour. Mais bon, vous êtes dans quelque chose d'assez comme ça descriptif. Mais concrètement, est-ce que vous avez des retours des événements ce jour-là?
Oui, bon, concrètement, en fait, ce que j'ai malheureusement, je peux dire, je sais que certaines sources parlent de 12 morts.
Oui, ça, je l'ai dit, c'est ce que nous avons eu aussi, mais qui, c'est mort, voilà. Le nombre des morts fait polémique et fait débat, en tout cas, et contesté par le gouvernement.
Oui, le gouvernement, je ne sais pas si vous aviez dit ça, peut-être que parce que je suis arrivé après, le gouvernement parle de 5.
Oui, on l'a dit dans notre journal et je l'ai répété en ouverture. Quelles sont les revendications des marcheurs, M. Ali Massi?
Les revendications des marcheurs, en fait, là, c'est là où on commence. Bon, mettons le CLC, qui est ce qu'on appelle le comité des laïcs, le comité de coordination, c'est-à-dire le comité des laïcs, coordination, que je ne sais pas comment il s'appelle encore. C'est qu'ils demandent, en fait, je pourrais le résumer, halte à la dictature. Voilà vraiment ce qui était derrière tout cela. En fait, ils ont essayé de masquer cela dans ce que même le cardinal a appelé dans son discours l'instrumentalisation de la liberté religieuse pour masquer des intérêts occultes. Mais il y a là derrière, selon moi, comment dirais-je, un but politique. Et je crois que de là, ça vient en fait de cette... Je crois que vous avez entendu parler de ça. Les gens qui sont en train de pousser à l'application de l'article 64 de la Constitution congolaise, qui a malheureusement deux alinéas. Ceux qui poussent pour cela ne voient que le premier alinéa qui dit qu'il faut mettre fin à la dictature. Mais de l'autre côté, il faut mettre, même par la voie des armes, il faut arrêter la dictature. Mais de l'autre côté, il y a aussi ce qu'on appelle le gouvernement ou l'autorité a le droit, de poursuivre ceux qui essayent de mettre fin à des institutions constitutionnellement établies.
Voilà. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. C'est Dialogue des religions sur VOA Afrique. Et aujourd'hui, nous parlons de l'implication des responsables religieux dans les processus démocratiques sur le continent. Et le point de départ de notre discussion, est la République démocratique du Congo. Vous êtes très nombreux sur notre page Facebook à vous manifester. À la fois, vous manifestez de l'empathie pour les Congolais. Vous reconnaissez le droit, comme l'exprimait tout à l'heure notre invité Monsieur Ali Massi, le droit aux Congolais et même aux religieux congolais de manifester pour ce qu'ils estiment être juste socialement. Et en même temps, vous en profitez pour fustiger les autorités qui, selon vous, font la sourde oreille. Que nous dit Christian Djerabé? Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Que pensez-vous alors, Christian, de l'implication des religieux dans les processus démocratiques sur le continent? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est bien fait jusqu'ici? Est-ce que vous avez des exemples particuliers, autres que celui de la République démocratique du Congo?
Oui, l'implication des religieux dans la scène politique, je trouve que c'est une bonne chose. Les religieux ne peuvent pas intervenir directement. Quand les religieux interviennent dans une crise politique, cela montre que le pays est déjà à la dérive. Et les hommes de Dieu ne peuvent pas s'intercaler à la politique. Mais si on le voit intervenir, c'est pour dire que ce qui se passe au pays ne les plaît pas. Ils ont intervenu juste pour ramener l'ordre, c'est pour montrer à Kabila de son maintien au pouvoir qui ne plaît pas à la nation congolaise. Donc leur implication est tout à fait normale, c'est pour ramener la paix dans ce pays.
Est-ce que vous ne craignez pas, est-ce qu'il n'y a pas à craindre, Christian, une récupération politique ? D'ores et déjà, un ancien allié de poids et ancien directeur de campagne de M. Kabila en 2006, Vital Kamerhe, a estimé que la présence des prêtres catholiques lors des manifestations de dimanche démontrait que les manifestations avaient franchi une étape supérieure et qu'il faut donc se concerter en vue de mettre en place de nouvelles stratégies dans l'unité. Et cet avis de M. Kamerhe a été partagé par le leader du rassemblement de l'opposition, Félix Tshisekedi, le fils d'Étienne Tshisekedi, qui a dit « Face à la barbarie du régime de M. Kabila, nous devons changer de stratégie ». Il semblerait même que M. Tshisekedi ait reçu quelques... ait été touché par des bombes lacrymogènes lancées dans une église dans laquelle il était dimanche. Alors est-ce que vous ne pensez pas que certes ces croyants exercent leurs droits en tant que citoyens, mais est-ce que avec ce type de discours, on ne risque pas une récupération du côté politique, même si c'est l'opposition au pouvoir en place ?
Oui, tout à fait, avant de faire, quand les hommes religieux interviennent dans une crise, c'est juste pour amener tout le monde à faire. Donc, Monseigneur avait tout à fait normal de qualifier cette répression de barbarie.
Vous êtes derrière le cardinal, derrière Monseigneur Mosengo. C'est entendu et c'est noté. Merci Christian Djerabé. Continuez de nous appeler au standard de VOA Afrique. Qui est avec nous? Je n'entends pas le nom. Brahima Doumbia est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous de la VOA.
Nous vous écoutons, Brahima.
Voilà, je pense que ces religieux sont aussi des citoyens. Tout ce qui quand même concerne la nation, surtout le Congo, doit s'impliquer. Il faut le rappeler, M. Kabila, son mandat après, malheureusement, et jusqu'à présent, il est toujours au pouvoir. Si l'opposition n'arrive pas à mobiliser massivement, n'arrive pas à faire partie de ce monsieur, je pense que tous les citoyens quand même doivent s'y impliquer. C'est le cas de l'Église catholique. Mais je me réserve un peu du fait que l'Église catholique, de mon point de vue, ne devrait pas aller jusqu'à ce niveau. Il s'est dit que M. Kabila doit partir. Parce que si M. Kabila part et qu'un autre président vient, il va falloir aussi que ces gens-là s'impliquent aussi pour que le pays soit bien géré, pour qu'on puisse lutter contre la corruption. Parce qu'il ne faut pas faire partie de M. Kabila et laisser l'autre aussi s'installer et faire ce qu'il veut aussi. De mon point de vue, quand on parle dans le cas du Mali, il y a des hommes influents, des religieux ici, mais très rares, ces gens-là disent de voter de temps ou de soutenir tant pendant les élections. Il est quand même très rare. Je pense que le petit quand même doit un peu s'écarter, le religieux doit un peu s'écarter de la religion de mon point de vue.
Vous êtes pour une séparation alors nette, plus stricte, du religieux et du politique. Merci, c'est entendu. Au standard de VOA Afrique, les appels se poursuivent et ne se ressemblent pas, comme vous pouvez le constater. Nous sommes avec Lassana. Allô? Allô?
Allô?
Bonsoir, Lassana.
Allô?
Allô?
Oui, bonsoir.
Oui, vous êtes à l'antenne.
Oui, madame, tout d'abord... Mes condoléances aux familles des personnes assassinées sauvagement le dimanche dernier. Et je dirais que l'Afrique centrale va vraiment mal. On est gouverné par des présidents dictateurs qui tuent constamment leur population. Et je trouve que vraiment, on est vraiment en danger. Et moi, personnellement, l'implication des prêtres catholiques dans l'affaire politique, je trouve que c'est vraiment important. Parce que les hommes de Dieu sont ceux-là qui sont censés dire la vérité. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Mais malheureusement, on a des autorités qui ne veulent pas dire la vérité, qui ne veulent pas se diriger avec la justice. Donc, c'est ce qui fait qu'on voit des violences partout. Et je pense que les hommes de Dieu sont ceux-là aussi qui sont capables de transformer aujourd'hui l'Afrique. Donc si on fait ça aussi dans le reste des pays africains, je pense que ça serait vraiment important. Tel que la jeunesse est abandonnée et c'est le résultat de cette souffrance là, qui fait que les gens se révoltent aujourd'hui. Et malheureusement, nos autorités ne veulent pas toucher du doigt les vrais problèmes. Ils sont là seulement à s'éterniser au pouvoir dans leur égoïsme. et ils s'en foutent de la population. Donc je trouve que la jeunesse doit se mobiliser, on doit se lever pour barrer la route à ces dictateurs-là qui sont là, qui font rien, ils s'enrichissent avec leur famille au dos de la population. Je trouve que c'est compliqué, quoi. Donc on doit agir partout pour que cette barbarie ou pour que cette injustice, cette inégalité là, que ça cesse, quoi.
Bon, alors on a bien entendu que pour vous, les hommes religieux et notamment les responsables religieux sont non seulement dans leurs droits quand ils s'expriment contre un pouvoir en place qu'ils estiment autoritaire, mais en plus peuvent être un rempart contre l'autoritarisme. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Vous avez encore quelques minutes, un peu moins de 10 minutes sur VOA Afrique pour intervenir dans Dialogue des religions. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'implication dans la vie politique des responsables religieux à partir de la qualification des mots très durs portés par l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Laurent Mosengo, sur les réactions du gouvernement et notamment des forces de l'ordre vis-à-vis de ceux qui voulaient marcher pacifiquement contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Il a parlé de barbarie. Dites-nous ce que vous en pensez, c'est ce que nous vous demandons. Nous sommes avec Apollinaire. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Dites-nous, Apollinaire, nous vous écoutons.
Oui, avant tout, je tiens à adresser mes condoléances à la famille des victimes de barbares, c'est ce qui s'est passé au Congo. Je félicite la réaction de cardinal. Ce n'est que normal. Ce qu'il a dit, c'est vraiment vrai. Les leaders religieux doivent impliquer dans la résolution de conflits. Et en principe, ça ne devrait même pas arriver à ce niveau. Ils devraient commencer à agir bien avant. Oui, je les félicite parce que en ce qui concerne l'accord de Saint-Sylvestre, les leaders religieux congolais étaient là, ils ont fait beaucoup de choses, mais toujours je les encourage à aller en avant. Ce qu'ils font, c'est normal, je les encourage, c'est normal.
Et la Apollinaire, et la récupération politique, alors, c'est aussi un danger. L'opposition peut se servir du poids des religieux pour dire, ah ben vous voyez, les religieux aussi n'en veulent pas, les mettre dans leur camp et en profiter pour faire avancer leur pion. Est-ce que ça n'est pas un danger, ça aussi?
Bon, dans ce cas, c'est un danger. Mais l'opposition, c'est un accord qui a été signé en relation avec l'opposition et le parti au pouvoir et le leader religieux. Donc, ce n'est que normal pour que l'opposition s'y implique, parce que c'est un accord qu'ils ont signé ensemble. Donc, moi, à ce côté, je ne vois pas tellement du mal, quoi. Ce n'est que normal.
Ça n'est que normal, et c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. Apollinaire, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Nous continuons de vous accueillir au standard dans Dialogue des religions sur VOA Afrique. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous êtes encore pour aller 7 minutes dans Dialogue des religions, où ce soir nous nous intéressons au rapport entre religieux et politique. Et on peut dire jusqu'à présent, mes petites statistiques me font dire que vous êtes vraiment à 100% pour une implication du religieux dans la vie politique. Vous l'appelez de tous vos voeux, vous la trouvez nécessaire, parfois même un rempart aux abus. Et malgré l'éventualité d'être utilisé par un bord ou un autre politique, eh bien vous estimez quand même, malgré tout, que c'est une chose importante. Alors nous étions jusqu'ici plutôt du côté chrétien catholique, notamment grâce à notre invité, Monsieur Ali Massi, au début, ancien responsable de l'association des catholiques africains ici aux États-Unis. Eh bien, voyons du côté musulman comment les choses se passent avec Blondin Cissé. Bonsoir.
Bonsoir, Nafezi.
Merci d'être avec nous. Vous nous répondez, vous voulez bien nous donner un peu de votre temps. Depuis Paris, vous êtes en ce moment. Alors, Blondin, vous êtes professeur et notamment sociologue, et vous êtes un spécialiste du fait religieux. Alors, pas du fait religieux, mais notamment de la confrérie des Mourides.
Alors, disons, il y a peut-être quelques réajustements.
Allez, ajustons.
Alors, je suis philosophe.
Oui.
Et en fait, je travaille sur les confréries sénégalaises. Et je suis le chef du Centre d'études des religions de l'Université Gaston Berger.
Autant voilà. Dire que vous savez de quoi vous parlez. Alors, jusqu'ici,
oui, alors,
jusqu'ici, oui. Blondin, nous avons parlé, et c'était le point de départ du dialogue des religions ce soir, de la réaction de l'archevêque de Kinshasa, qui n'a pas eu de mots assez durs pour qualifier la répression des marches du 31 décembre, qui se sont soldées, selon les organisateurs, par 12 morts, selon le gouvernement, 5. Il a employé les termes de barbarie et nous avons posé la question à nos auditeurs ce soir de l'implication, de l'entremêlement entre la vie religieuse et la vie politique, les responsables religieux dans la vie politique. Comment est-ce que cela se passe comment les choses se passent-elles dans les pays musulmans que vous avez pu étudier? Alors pourquoi pas au Sénégal, mais j'imagine que vous avez aussi une vue d'ensemble.
Tout à fait, Anastasie. En fait, au Sénégal, il y a une tradition qui remonte à loin et qui fait que même pendant la colonisation, les colons, pour asseoir leur politique, ont été obligés de recourir à l'aide des chefs religieux, puisqu'ils avaient ils étaient parvenus, par le truchement d'un discours enraciné dans les réalités sociales, à rassembler les masses paysannes autour d'eux. Alors, donc, les chiffres coutumiers ou les chiffres religieux ont été des bases qui y ont aidé effectivement à mettre en place la politique de la colonisation.
Alors, Blondin, faisons un saut dans le temps, puisque nous sommes pris par le temps, et aujourd'hui...
Oui, ok. Alors, en sorte que, après la colonisation, aucun gouvernement n'a pu s'installer sans faire allégeance à ses autorités maraboutiques. Ce qui fait que, nantis de cette force-là, elles ont eu à jouer un rôle, parfois de régulateurs sociaux, par rapport à tous les événements politiques qui ont marqué les pays. Le pays, en sorte que, très souvent, il y a un rapport de collaboration entre le politique et le religieux, et c'est naturellement au Sénégal que ces régulateurs sociaux, qui sont des régulateurs sociaux par excellence, ont toujours participé à préserver la paix sociale par un discours justement de paix, un discours qui va mettre en avant des valeurs de tolérance, de vivre ensemble, etc.
Donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire, Blondin Cissé, que ce qui se passe à Kinshasa aurait peu de chances d'arriver au Sénégal ou dans un grand pays musulman d'Afrique de l'Ouest, qu'un imam particulièrement influent comme ça prenne à partie un président ? Ou alors, un gouvernement, parce que là c'est plutôt c'est un gouvernement et un président.
Disons c'est arrivé même assez souvent. C'est arrivé au Sénégal qu'à un moment donné que l'action du politique soit régulée, soit justement dénoncée par les religieux.
Vous avez un exemple?
Alors on a des exemples durant par exemple la mandature de Abdoulaye Wade.
Oui.
À un moment donné, il y a eu un événement qui s'est déroulé et qui a fait que en ville il y a eu des manifestations et les manifestants sont allés se réfugier dans l'enceinte d'une mosquée. et les forces de l'ordre ont eu à investir ou à jeter des gaz lacrymogènes, ce qui n'a pas plu à la communauté tidjane, qui a répliqué en dénonçant, disons, cette violation de cet anse, de ce sanctuaire.
Et je vous écouterai parler encore des heures et des heures, et vous le savez, Blondin Sissé, mais il faut déjà que nous nous quittions. Merci infiniment pour votre participation. Merci aussi à M. Almassi qui était là en début. Merci à vous, chers auditeurs. Restez sur VO Afrique, à venir le journal. Thank you.